Les tsars du ballon rond, le quart d'heure des spécialistes.
Bienvenue dans le quart d'heure des spécialistes. L'actualité est riche aujourd'hui avec le match France-Pérou notamment qui est en cours. On joue la 41e minute de jeu. C'est 1-0 pour l'équipe de France. Et ce soir, on assistera au choc entre l'Argentine et la Croatie. Demain, la Suisse joue un match capital contre la Serbie. On décrypte aujourd'hui l'actualité du mondial avec vous, Bernard Chalande. Bonjour.
Bonjour.
On laisse tout d'abord le soin à Jérôme Moutet de nous dresser votre portrait.
Bernard Chalande, vous êtes né le 26 juillet 1951 au Locle. Ah, horreur malheur, le Locle. Mais comme on dit, il faut y être né pour y rester. 1951, grande année, où par exemple, il y a eu 649 avalanches qui provoquèrent la mort de 265 personnes dans les Alpes. C'est aussi cette année-là que Léopold de Troyes, alors roi des Belges, a abdiqué. Mais le lien avec vous, on le verra tout à l'heure. À 17 ans, vous commencez votre carrière de footballeur au FC Le Locle Sport avant de rejoindre Urania Genève Sport, UGS, en Ligue Nationale B durant deux saisons en raison de vos études. Puis, vous revenez dans votre club d'origine en 72. Oui, car vous êtes un homme fidèle. Quatre ans plus tard, vous êtes prêté en première ligue au club chaudefonnier de Superga pour une saison, puis au FC Boudry. Des noms que les plus jeunes d'entre nous croient être inventés, mais non, ça a existé quand nos téléviseurs étaient encore en noir et blanc. Mais c'est en 1978, alors que j'avais un an, que le tournant de votre carrière va se faire, puisque vous êtes nommé entraîneur-joueur au FC Saint-Imier, et c'est là le point de départ du grand entraîneur que vous êtes. Vous poursuivez avec un parcours de fou, toujours comme entraîneur, au Le Locle Sport, encore, la Chaux-de-Fonds, Yverdon, Young Boys, Servette, puis les équipes suisses M17, M18, et vous êtes même assistant de l'équipe de Suisse avec Rolf Ringer comme principal. Mais au contraire d'un certain Valaisan, vous, ce sera sans lui mettre des baffes. Puis en 2001, en remplacement de Kubikoun, nommé entraîneur de l'équipe A, vous entraînez les fameux M21 Suisses. Et là, on se dit que le prochain, c'est vous, Bernard, après Kubi, Bernie, un gars du Locle à la tête de l'équipe suisse. Oui! Et non, puisque vous signez au FC Zurich en remplacement de Lucien Favre. Deux ans plus tard, vous êtes champion suisse avec ce club et vous êtes même qualifié pour la Ligue des Champions où vous battez le Milan AC à San Siro sur le score de 1-0. Et on ne comprend toujours pas pourquoi il n'y a pas de statut de vous à Zurich. Vous continuez votre tour de Suisse en entraînant Sion, Xamax, Thun, retour à IB. Et là, vous, le Belge, vous êtes éjecté comme un malpropre et remplacé par un bourbine, Uli Forte. Salaud, Uli! Mais on se souvient tous qu'il s'est fait virer il y a peu par le FC Zurich pour être remplacé par un Belge. Bien fait, Uli, t'avais qu'à pas toucher à notre Bernard. Mais en 2014, tremblement de terre, vous signez comme sélectionneur de l'Arménie. Oui, je sais, le parallèle avec le tremblement de terre est limite, mais au moins, ça parlera à tout le monde. Vous démissionnez le 30 mars 2015 après une défaite contre l'Albanie, mais trois ans plus tard, c'est-à-dire cette année, Bernard, vous avez un coup de fou. La folie de la septantaine approchant, vous signez comme sélectionneur du Kosovo pour 4 ans. On savait que les défis ne vous faisaient pas peur, mais là, avec vous, c'est un peu défi, beaucoup d'effets. Car on se souvient qu'en mai dernier, vous avez gagné votre troisième match de suite avec cette sélection, 3-0 contre l'Albanie. Tiens, l'Albanie, cette même équipe qui vous avait battu avec l'Arménie en menant votre démission. Et c'est là qu'on se souvient que vous êtes né l'année où Léopold de Troyes, roi des Belges, a abdiqué. C'est tout votre contraire, car vous, si on vous sort par la porte, vous ramenez par la fenêtre. Bernard Chalande, on se souviendra de vous comme étant le seul homme au monde parlant le suisse-allemand avec autant d'accent roman. Mais on se souviendra surtout de vous pour votre bonhomie, vos colères parfois au bord du terrain où votre mâchoire inférieure avait tendance à prendre les devants sur celle supérieure. Et on se souviendra de vous comme étant également un excellent consultant TV et on est beau chercher, on n'a trouvé personne pour dire du mal de vous. Alors pour tout ça, Bernard, on vous dit bravo et merci.
Bernard Chalande, c'est un portrait qui vous convient ?
Oui, oui, tout à fait, avec quelques petites inexactitudes, mais sinon, non, ça me convient très bien, pas de problème.
Alors avant de parler des affiches du jour et de l'équipe de Suisse, on a envie de vous faire réagir également à notre sondage qui est toujours en ligne sur nos pages Facebook, c'est sur le VAR, l'assistance donc vidéo pour l'arbitre. Et qu'est-ce que vous pensez jusqu'à présent de l'assistance vidéo dans cette Coupe du Monde ?
Bon, je pense que bon, pour le moment, c'est pas trop mal. Maintenant, il faudra faire les expériences. Je pense que c'est trop vite pour se prononcer si c'est positif ou s'il faut faire des changements. Je crois qu'il faut vraiment faire l'expérience. Moi, je suis pas contre, je suis pas pour non plus, dans la mesure où il faut pas exagérer non plus, etc. Alors, avec cette assistance vidéo, quand je vois les joueurs commencer de me montrer un taré pour dire il faut regarder la télévision, ça m'énerve déjà au plus haut point. Donc, il faudra bien mettre les choses à plat pour voir dans quelle mesure on peut l'utiliser. À utiliser, mais avec modération.
On arrive gentiment à la mi-temps du match de la France qui joue actuellement contre le Pérou, qui mène 1-0 grâce à un but un peu chanceux de Kylian Mbappé tout à l'heure. Comment est-ce que vous trouvez la France pendant cette première période?
Bon, la France a assez bien abordé le match, même si le Pérou est bien entré dans le match, mais la France paraît assez solide et elle prend gentiment le pas sur cette équipe du Pérou qui joue bien au ballon mais qui est quand même pas très très dangereux. Bon, on a eu quand même une occasion de Guerrero sur un très très beau contrôle orienté. Loris a sauvé, il a fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là et ça a permis à la France de mener 1-0 un petit peu plus tard sur cette action. Mais les Français ont quand même, je dirais, sur cette première mi-temps dominé, ont peut-être pas dominé forcément dans le jeu, mais ont été quand même un petit peu plus dangereux et ce 1-0 reflète assez bien cette première mi-temps.
Oui, surtout depuis la 30e minute de jeu, on voit les Français bien plus entreprenants que pendant la première demi-heure où le Pérou, une nouvelle fois, a essentiellement eu le ballon, a fait circuler avec une technique assez élégante. Vous êtes surpris de ce que présente le Pérou pendant cette Coupe du Monde ?
Non, parce que je crois que c'est typiquement le reflet de ce football sud-américain, un football très technique, de jeu court, où les joueurs se trouvent relativement facilement. Maintenant, on l'avait déjà constaté sur le premier match, le Pérou manque un petit peu d'efficacité et ça se paye dans le football moderne. Donc, pour moi, ça reflète assez bien la situation. Une équipe de France qui est assez froide, assez quand même efficace, on l'a vu quand même contre l'Australie, elle n'a pas besoin d'avoir trop d'occasions et là on a une petite différence peut-être entre ce football parfois sud-américain assez joli à voir mais pas très efficace et ce football européen un petit peu plus efficace.
Ce soir, on va assister à un choc dans le groupe D, toujours une opposition entre une équipe européenne et une équipe sud-américaine. C'est la Croatie qui joue contre l'Argentine. L'entraîneur argentin Néstor Clausen nous disait tout à l'heure qu'il souhaitait voir à l'œuvre une équipe argentine plus offensive. C'est un sentiment que vous partagez, Bernard Chaland ?
Oui, c'est pas seulement une question d'offensive ou de défense. L'Argentine, pour le moment, ne m'a pas du tout convaincu. Elle m'a pas du tout convaincu non plus sur la phase de qualification où elle s'est qualifiée vraiment à la raclette, comme on dit, grâce à Messi. Non, cette équipe d'Argentine, pour le moment, n'est pas au top, ne présente pas le football que l'on pourrait, dont on pourrait rêver quand on pense Argentine et quand on voit les joueurs qui sont alignés. Mais pour le moment, je dirais que cette équipe ne m'enthousiasme pas du tout et je la vois très bien peut-être faire ses valises relativement tôt.
Quand on voit les joueurs offensifs qu'il y a sur le terrain, ceux qu'il y a sur le banc aussi, on se demande si pour Sampaoli, ce ne serait pas une bonne idée, une fois en tout cas aujourd'hui, par exemple, vu l'enjeu d'associer des Messi, des Dybala, des Higuain, des Di Maria. Pourquoi finalement est-ce qu'on a autant de retenue côté argentin d'après vous ?
Bon, alors c'est vraiment des choix de l'entraîneur. C'est vrai qu'il y a au niveau des individualités beaucoup de talents offensifs. Maintenant, est-ce que l'entraîneur a peur de les aligner ensemble pour préserver, je dirais, un équilibre offensif-défensif? C'est certainement sa réflexion. Mais c'est vrai que quand on aligne les noms les uns derrière les autres, on se dit qu'il y a un potentiel énorme. Mais pour le moment, on ne le voit pas. Est-ce que ces joueurs aussi peuvent tous jouer ensemble, parce que certains se ressemblent, certains veulent beaucoup le ballon dans les pieds, veulent participer au jeu, et peut-être qu'il y a des joueurs là qui sont un petit peu trop proches les uns des autres. C'est ce qui fait que l'entraîneur ne les aligne pas tous ensemble.
En face, ce soir, il y aura la Croatie. On l'a cité parmi les outsiders, voire même, pourquoi pas, parmi les favoris de l'Euro il y a 2 ans. Cette année, dans quel costume est-ce qu'ils arrivent, d'après vous, et jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller, ces Croates?
Bon, ça... ça reste un outsider, c'est clair, un outsider de qualité. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Elle a pas mal d'expérience dans la phase défensive. Et offensivement, ben, on connaît les joueurs, Rakitic, Modric, Mandzukic, etc. Donc il y a du potentiel offensif. C'est une équipe qui a de l'expérience aussi des compétitions européennes ou mondiales. C'est une équipe qui est très très difficile à manœuvrer. Je pense qu'elle peut, je crois pas qu'elle peut aller, au bout, mais c'est une équipe quand même qui sera très très difficile à manœuvrer.
On va parler un bref instant d'Ivan Rakitic, ex-joueur du FC Bâle, ex-joueur de l'équipe de Suisse dans les espoirs. Vous l'avez eu sous vos ordres, Bernard Chaland, Ivan Rakitic. Qu'est-ce qui fait que ce joueur-là en est où il est à l'heure actuelle?
Oui, bah, je crois qu'on était tous persuadés déjà à l'époque. Moi, je l'ai eu en moins de 20 ou moins de 21. On était tous persuadés de son talent, de son immense talent. Il avait une façon de voir le jeu assez extraordinaire. Il était vraiment un immense espoir pour nous. On a tout essayé pour qu'il joue plutôt pour la Suisse que pour la Croatie. Il a joué avec moi un certain nombre de matchs amicaux, puisque à cette époque-là, dès le moment où il faisait un match officiel, il aurait été brûlé pour la Croatie. Il a toujours été très très clair dans son comportement. Il n'a jamais dit « je veux jouer pour la Suisse ». Alors on s'est accroché, on a essayé, on l'a visité, les parents aussi, Kubikun aussi, mais malheureusement, on n'est pas arrivé à faire en sorte qu'il joue pour la Suisse. On le regrette très fortement quand on voit la suite de sa carrière, mais ce n'est pas du tout une surprise. Il avait un talent énorme et il le confirme. En plus, c'est un garçon charmant, un garçon très, très, très posé, très calme, qui aime jouer. C'est vraiment un footballeur et un homme d'exception.
Rakitic-Modric, pour vous, c'est le meilleur duo à mi-terrain des équipes qui sont actuellement présentes à la Coupe du Monde ?
Non, on peut pas le dire comme ça, mais c'est clair que ça en fait un duo des plus intéressants. Après, il y a tellement de talents, je dirais, dans certaines équipes, dans certains pays, que c'est difficile de comparer. Mais c'est vrai que c'est un duo très très performant au milieu du terrain et on l'aime parce que il y a du jeu, il y a de la qualité technique, il y a de la créativité et puis voilà, ça court aussi beaucoup. Modric, quand on voit ce qu'il fait à Madrid, c'est aussi exceptionnel. Alors associé à un Rakitic, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un duo vraiment vraiment extraordinaire pour un entraîneur.
On va déjà jeter un regard sur demain, ce match capital pour l'équipe de Suisse qui affronte la Serbie à 20h, défaite interdite pour la Nati, et un match qu'elle va aborder quand même, avec beaucoup de pression, Bernard Chaland. Est-ce que la Suisse a l'expérience nécessaire pour entrer dans le match de façon libérée ?
Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle par façon libérée, mais l'expérience, celle-là, les joueurs ont déjà vécu dans leur club des gros matchs, des situations de stress entre guillemets, de stress positif. Maintenant, c'est une fois de plus un match, voilà, c'est un match de Coupe du Monde, un match qui peut qualifier l'équipe pratiquement. Donc, ça va être un très très gros match, mais j'ai pas du tout peur à ce niveau-là. Après, il faut se rendre compte que c'est un adversaire qui sera très difficile à manœuvrer. Mais moi, c'est pas une question d'expérience, c'est pas une question de stress, de pression ou quoi que ce soit. L'équipe suisse a le potentiel pour passer, mais bon, voilà, ce sera pas facile parce que l'adversaire lui aussi a du potentiel, lui aussi a des joueurs d'expérience, lui aussi peut défendre très très bien et attaquer avec des joueurs de qualité. Nous, la Suisse a montré maintenant sur ces dernières années, mais plusieurs années, parce que les compétitions, que ce soit le championnat d'Europe ou le championnat du monde, qu'elle était présente, elle a une grosse expérience, c'est un groupe qui vit très très bien ensemble, et moi ça me fait pas peur. L'équipe suisse a l'air d'apprécier maintenant ce genre de gros défis, de gros matchs. Et je suis persuadé qu'elle pourra faire un très très grand match demain.
Rapidement, Bernard Chaland, dans quel secteur de jeu est-ce qu'il faudra avant tout faire attention pour l'équipe de Suisse?
Il faut être très très complet. Je veux dire, la force de cette équipe suisse, je dirais, c'est cette polyvalence, cette façon de défendre maintenant qui est très très bonne. Mais on l'a vu face au Brésil, quand il a fallu retrousser les manches et défendre, par exemple, du côté de Neymar. Shaqiri a fait le job, Brahmi bien entendu l'a fait, Lichtsteiner l'a fait aussi, de l'autre côté aussi, au milieu aussi. Donc l'équipe, elle est capable de très très bien défendre. Ensuite, de toujours se projeter vers l'avant, de se créer des occasions de but. Donc il faudra être une fois de plus très très complet. On entend, est-ce qu'on va prendre des risques, est-ce qu'on va jouer le match nul ou des choses comme ça? Je pense pas. L'équipe suisse va jouer son jeu comme elle l'a toujours fait. C'est sa grande force. Elle ne change pas. C'est pas parce qu'elle joue contre le Brésil que Petkovic met un milieu défensif supplémentaire, par exemple. L'équipe suisse joue avec ses arguments et c'est ce qui en fait sa force. Et une fois de plus, c'est cette solidarité, c'est cette confiance, cette confiance positive. Elle a osé jouer contre le Brésil quand elle a récupéré le ballon. Elle n'a pas paniqué. Elle a essayé de garder le ballon et de calmer. Ça a été pour moi un plus, peut-être par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans des gros matchs. Et c'est ce qui me fait penser que la Suisse a tout pour passer le cap.
Bernard Chaland, merci d'avoir été en direct avec nous. On vous souhaite évidemment une très bonne suite de Coupe du Monde.
Merci beaucoup. Au revoir.
Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.